Chez RMR, c'est vous avant tout.
Reprenez votre situation financière en main. Il y a plusieurs options autres que la faillite.
Roy Métivier Roberge.
RMRsyndic.com.
Antirouille Métropolitain vous offre pour un temps limité un traitement antirouille complet à 20$ de rabais. Antirouille Métropolitain. Grouille avant que ça rouille.
Chez moi, chez les autres, avant d'entrer dans un magasin, dès que je le peux, je me lave les mains. Je le fais pour protéger ceux que j'aime, mon petit-fils, mon mari, pour continuer de recevoir à la maison cet été, pour profiter des fêtes de semaine au camping en famille. Parce que la COVID-19 est toujours là, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de bien se protéger. Face à un virus aussi malsain, on doit tous se laver les mains.
Tous contre un, tous contre la COVID-19. Un message du gouvernement du Québec.
À la demande générale, on prolonge d'une semaine la grande vente sous la tente chez Céramique L'Entrepôt. Céramique, vinyle clic, pierre murale et bien plus à liquider. Premier arrivé, premier servi. Prolongé jusqu'à dimanche seulement chez Céramique L'Entrepôt, 850 boulevard Pierre-Bertrand.
Excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer où se trouve Saint-Guillaume?
Ah oui, oui, c'est facile. Vous allez tout droit, ensuite marchez un peu, vous tournez à gauche. Le fromage Saint-Guillaume se trouve entre le lait et le beurre.
Votre destination estivale pour des produits d'ici, Proxy, un dépanneur d'ici. Cette semaine, le kombucha québécois Rise est 2 pour 6$. Détail en dépanneur.
FM 93, cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93, Québec. Jusqu'à 18h, vous écoutez Bouchard en parle.
C'est Bouchard en parle.
Voici Alexis Sanson.
À 15h02, avant d'aller à notre prochain invité, dont je vous ai parlé juste avant la pause, Monsieur Alex, dans la circulation.
Je ne sais plus comment faire ça, moi, la circule.
Tu commences par nommer les rues, puis après, tu dis si ça va bien ou pas.
Excellent. Capitale, direction Est, il y a de l'attente à la hauteur de Robert Bourassa jusqu'à Pierre-Bertrand. Direction Ouest, c'est de Laurentienne jusqu'à Pierre-Bertrand. Pour les gens qui circulent sur Charest, direction Est, il y a de l'attente un peu avant Henri Bourassa. Et sur la 20, direction Est, c'est compliqué à la hauteur de Taniata. Merci aux gens qui nous informent en composant étoile 933.
La circulation, présentée par Silencieux Proto. Silencieux Proto vous offre ce beau moment de silence. Parce qu'un silencieux qui fait du bruit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus le fun à entendre. Silencieuxproto.com.
Il est impressionné, François, pareil.
Oui, vraiment, là. Je suis flabbergasté.
Puis pendant le moment de silence, ben tu peux ouvrir les fenêtres. Ça aussi, hey, ça te permet de couvrir le bruit du silencieux.
Il va falloir faire attention pour ouvrir les fenêtres parce qu'on nous prévoit des averses. Mais d'ici la fin de la journée, il ne devrait plus en avoir trop. Vent du sud-ouest, 30 km/h, rafale à 50. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les possibilités d'averses diminuent. Nuageux ce soir et cette nuit. Nuageux encore demain matin, puis il y a des averses qui sont prévues demain qui vont débuter en mi-journée. Le maximum prévu demain, c'est 22. Puis au fur et à mesure que la journée avance, bien là, les averses se font de plus en plus fréquentes et c'est de la pluie qui embarque pendant la nuit, pendant toute la journée de mercredi, parce qu'on va avoir la visite de l'ouragan Isaias s'en vient nous voir. Alors, mardi dans la nuit et mercredi toute la journée, il va nous amener de la pluie. Mais après ça, ça s'améliore. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à présent, on nous annonce beau. Et à Québec, c'est 22.
Et là, François, tu vas nous raconter un peu plus tard pourquoi est-ce que Isaias s'appelle Isaias.
Oui, Isaias.
Ça, c'est à venir un peu plus tard dans cette émission. Je vous ai dit juste avant la pause que j'avais le goût d'entamer cette série d'entrevues. Comment on devient? D'ailleurs, cette semaine, on devrait avoir 2-3 personnes pas si pire intéressantes quand même. Et j'avais le goût de lancer ça ce matin, cet après-midi. Comment est-ce qu'on devient négociateur? Ou j'aurais pu aussi dire tout simplement comment on devient Claude Poirier. Ouais,
comment qu'on devient ce qu'on est?
Comment tu deviens Claude Poirier? Quand tu arrives quelque part, et puis là, il a fêté ses 60 ans de carrière l'an dernier. Là. 61 ans de carrière. C'est incroyable.
Sa carrière approche l'âge de la retraite.
Effectivement. Puis, je veux dire, un Claude Poirier, il va en avoir juste un, là. Tu sais, un journaliste judiciaire comme ça qui couvre toutes les activités, tout ce qui se passe dans le milieu, là. Il n'y en aura pas d'autres. Là. C'est quelqu'un qui a créé sa marque de commerce, qui est devenu le négociateur, qui était au courant de tout, puis qui a développé le Claude Poirier Inc., là, qui est devenu la personnalité qu'on connaît aujourd'hui. Puis j'avais envie de me demander comment on devient Claude Poirier, comment on en arrive là.
Ça a commencé comment?
Ça a été quoi l'élément déclencheur? On va aller le rejoindre. Claude Poirier, bonjour!
Bonjour à vous deux. Si vous me permettez, j'aimerais également saluer votre auditoire de la belle région de Québec.
Absolument. Toujours un plaisir de vous jaser, M. Poirier. Puis j'avais le goût de vous demander aujourd'hui, puis je vous lance comme ça, comment on devient négociateur comme ça? Comment on devient le Claude Poirier qui est là aujourd'hui?
Ben, on devient pas négociateur, faut bien s'entendre. On devient pas négociateur pour la simple raison que moi, c'est par hasard que je suis été impliqué dans autant de prises d'otages et de cas d'enlèvement pendant des années, surtout au début, après la crise d'octobre de 70, où il y a eu une vague d'enlèvements et de prises d'otages dans des institutions bancaires, dans des pénitenciers, tout ça. Alors moi, j'ai appris mon métier autant comme journaliste que sur la situation au niveau des prises d'otages sur le terrain. Ça va faire le 11 de août, là, la semaine prochaine, je termine, en fait, je vais avoir commencé ma 61e année parce que je termine ma 60e année comme journaliste dans le domaine judiciaire et policier.
Parce que si on fait les choses dans le bon ordre, M. Poirier, ça commence le 11 août 1960 à cause d'un vol à main armée dans une caisse populaire. À cause de quoi, puis comment ça décolle? Racontez-nous ça.
Ben d'abord, il y a eu une série qui a passé sur les ondes du réseau TVA pendant 3 ans. Ça s'appelait « Le négociateur », dont le rôle était tenu par Frédéric de Grandpé, un excellent comédien. Moi, quand on m'a approché pour faire cette série-là comme consultant, je leur ai bien dit, je veux pas une copie, je veux simplement être consultant sur des événements que j'ai vécu. Moi, mes études me permettaient de penser que j'étais prêt à aller en affaires parce que mon père avait un commerce en affaires. Et un jour, j'avais une décapotable, une voiture Montcalm blanche avec un petit chapeau de paille sur la tête. Je pesais à peu près 135 livres et je fais 30. Et j'avais eu une contravention sur la rue Saint-Hubert. J'avais été voir un client sur la rue Saint-Hubert et j'avais eu une contravention. Alors, j'ai décidé de me rendre dans le nord de la ville. J'avais affaire dans le nord de la ville. Ça n'existe plus aujourd'hui parce que c'est le pont Papineau qui est là. Il y avait la caisse populaire sous les Récollets. Alors, j'arrive sur le terrain de stationnement. Il y a une voiture Oldsmobile noire. La plaque, elle est tournée. Il y a un gars, on est au mois de août. Il fait très chaud. Il y a des gants. Il y a une tuque sur la tête. Puis il y a un genre de... un foulard avec jusqu'à la bouche.
Okay.
Au moment où je stationne mon véhicule, des coups de feu sont partis. Alors, à ce moment-là, il y avait un policier qui était en congé parce que son époux venait d'avoir un enfant. Il était à l'intérieur de la caisse. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet incident-là. Il y a un gars qui a été tué. Qui, en passant, un des gars qui avait été tué, avait travaillé au magasin de mon père.
Ah ouais.
Alors, quand j'ai enlevé le cagoule, j'ai reconnu le gars en question. Il y a eu 2 autres personnes qui ont été capturées. Et à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait à CJMS, c'est jeudi mon salaire ou c'est Jarreau mon soutien. Il y avait un concours.
Okay.
Il y avait une boîte téléphonique, puis à ce moment-là, on payait 10 sous dans la boîte téléphonique. Puis il y avait un concours, la meilleure nouvelle de la semaine. Alors, j'ai appelé à CJMS et j'ai dit, je viens d'être témoin d'un vol à main armée. Alors, je vais vous donner des détails. Et puis, restez là. Et j'ai resté là, puis à un moment donné, ils disent, on va aller rejoindre quelqu'un qui était témoin d'un vol à main armée où un bandit a été tué. Puis là, on m'a présenté. Alors, c'était ma première intervention que j'ai faite. Alors, j'ai eu la piqûre, mais il faut dire qu'avant ça, j'avais eu l'occasion, et dans ceux qui ont vu la série de négociateurs, M. Poulin, le grand comédien M. Poulin, personnifiait un personnage qui, moi, il a été très important dans ma carrière. Il s'agissait de feu Marcel Rousseau, qui était photographe à Léopolis. Marcel Rousseau était un personnage assez spécial. D'abord, il était un brasseur de cadre d'un barbotte volante. Il connaissait autant le clan des Dubois qui était renié, puis toute la peine. Et il m'a introduit, parce que pendant un an, là, pendant 8 mois, je m'assoyais avec lui, vieille voiture. Dans ce temps-là, on avait juste une fréquence de police, avec les récepteurs qu'on avait. Et... il m'a introduit. Alors, moi, compte tenu que j'avais été élevé dans le secteur de l'Est de Montréal, j'habitais sur une rue dans l'arrière de la résidence de Frank Cotroni. Donc, j'ai connu toute la famille des Cotroni très jeunes, les plus jeunes, à 3 ans, 4 ans. C'est de même que j'ai commencé à connaître le milieu. Puis, compte tenu que Marcel m'avait introduit, alors, c'est de même que ça a commencé. Alors, ça, c'est le début. Moi, en octobre 70, je travaillais à CJMS, on avait un éditorialiste qui s'appelait Paul Cook, qui descendait tout ce qui pouvait bouger. Alors, on n'était pas la boîte à lettres du Front de libération du Québec. C'était CKC et CKLM à l'époque qui existaient. Alors, moi, après avoir donné les nouvelles en nombre,
oui.
le 11 août 1960, je suis allé à CGMS pour aller chercher mon prix. Ils m'ont donné un cadre avec un certificat. Je ne me souviens pas, je pense que c'était 12 $ ou 120 $. Et j'étais voir, à ce moment-là, Frenchy Jarreau, qui a été d'une certaine façon mon mentor, qui est décédé depuis une dizaine d'années. Frenchy avait une voiture identifiée, si jamais, fournie par la concessionnaire Parc Avenue Chevrolet, Pointe-Viau et Bélanger. Et Jarreau s'en allait pendant 6 semaines avec un groupe de médecins en Chine. Alors, okay. moi, j'ai dit... À Moscou, pardon. Alors, moi, j'ai été voir Paul Coupe, puis j'ai dit à Paul Coupe, j'aimerais ça faire ce métier-là. Oui, mais avez-vous de l'expérience? J'ai dit non, j'ai pas d'expérience. Ben, il dit, j'ai pas d'argent. Je vous ai pas demandé d'argent. J'aimerais ça faire ça. Bon, mais ben, écoutez, avez-vous des moyens d'avoir des informations? Je vais m'en trouver. Et là, j'avais une voiture, moi, une petite voiture, en plus de ma Moncan, une Corvette, le moteur est en arrière. Ouais. Alors, j'ai pris ma voiture blanche, je l'ai identifiée CGMS, voiture numéro 6 de reportage, avec des clignotants. Et je suis arrivé à CGMS, il y avait Paul Coupe, il y avait Jean Rignadou qui vient encore, parce que la plupart sont tous décédés. Et j'ai dit, bon, alors pendant 6 mois, 8 mois, j'ai travaillé gratuitement. Alors, c'est ma mère qui m'a aidé. Mon père ne l'a jamais pardonné d'avoir laissé tomber la compagnie pour faire de la radio. Mon père disait, ce milieu-là, c'est un milieu de crevettes. Et moi, j'ai commencé à faire ça. Puis moi, ce qui m'a donné un coup de main, me faire connaître, c'est mon ami Jean-Pierre Coyer qui m'a amené à TVA, à Télémétropole à l'époque. Ça s'appelait Métro Matin. Alors, Jean-Pierre m'avait demandé de participer à ça. Alors, j'ai participé à ça. Puis je faisais des reportages via le téléphone, jusqu'à temps qu'il m'a amené en studio. Et c'est le même que ça a commencé. Puis là, il y a eu la crise d'octobre de 70, où nous, on n'avait pas d'informations beaucoup. J'avais Rénal Brière, qui était reporter à Trois-Rivières, qui est venu à Montréal. Et le soir, on a trouvé la dépouille de Pierre Laporte sur le terrain de stationnement de l'aéroport de Saint-Hubert. On est arrivé immédiatement après Michel Saint-Louis, qui lui avait eu d'aller chercher l'information en dessous d'un tapis à la Place des Arts qui a amené la découverte de Pierre Laporte. Et là, par la suite, il y a eu une série d'enlèvements. D'enlèvements criminels dans les banques, puis tout ça. Puis compte tenu que moi, je connaissais certaines personnes du milieu, il est arrivé des choses qui m'ont fait demander. Alors, j'ai eu l'occasion de participer à des prises d'otages comme négociateur. J'avais pas d'expérience là-dedans. Là.
La première fois, ça survient comment, M. Poirier? T'sais, comment la première fois vous ramassez là? Parce qu'il faut quelqu'un qui dise, moi, je veux parler avec l'autre Poirier.
J'en ai jamais parlé trop parce qu'il s'agissait d'un mineur. Alors moi, il était barricadé. J'avais réussi à le convaincre de sortir. Et ensuite de ça, il y a eu un enchaînement. Là. Ça a été une vague de prise d'otages puis de cas d'enlèvement dans les institutions bancaires et les caisses populaires.
Mais vous devez... Vous deviez pas vous attendre, M. Poirier, la première fois que quelqu'un vous appelle comme ça, que ça allait complètement changer votre carrière à partir de ce moment-là?
Non, parce que habituellement, quand les journalistes ou dans le domaine judiciaire et fait divers, les journalistes lèvent la nez là-dessus. Moi, j'en ai connu beaucoup qui ont fait ce genre de métier-là, mais ils n'ont pas resté longtemps. C'est sûr que ça n'a pas la prestance d'être correspondant à Québec ou à Ottawa, mais à l'époque, moi, j'étais le seul qui a amené ça. J'ai créé cette situation-là en patrouillant avec des radios de police puis tout ça. Et j'ai vu apparaître, puis on le voit aujourd'hui, combien de fois que les bulletins de nouvelles, que ce soit à TVA, à RDI, à LCN ou à Radio-Canada, ils ouvrent maintenant leur bulletin le soir avec un fait divers.
Oui.
Moi, quand j'ai rentré au palais de justice, c'était juste après les Secrets, la presse, Montréal Star, Montréal Matin, le journal de Montréal n'existait pas, la Gazette existait, et c'était juste des journalistes de la presse écrite. Alors, moi, j'ai commencé à couvrir le palais de justice, il est arrivé mon ami Normand Maltais qui est arrivé, quelques années plus tard, mon autre ami Richard Desmarais est arrivé dans le portrait, mais à cette époque-là, moi, j'ai eu l'occasion, les gars me disaient, quand j'allais négocier des prises d'otages, ils me disaient, si des gars comme Frank Catroni et d'autres personnes, Richard Blanc, entre autres, parce qu'il m'avait mis des contrats sur la tête, puis tout ça, c'est le même que j'ai bâti ma carrière. Puis je suis très honnête. Quand je faisais des affaires, j'appelais certains de mes collègues. J'appelais, par exemple, les caméramans à la Télémétropole, à Radio-Canada. J'appelais le Journal de Montréal le matin. Par la suite, j'ai réservé le Journal de Montréal. Ça, quand la première édition du Journal de Montréal est arrivée, j'étais de la première édition. Alors, c'est sûr et certain qu'il est arrivé un paquet de publicité. Et au cours des années, j'ai amené également, parce que moi, quand quelqu'un me demandait de se livrer parce qu'il était cherché pour un meurtre,
ouais.
On est livré au-dessus de 200, je disais, raconte-moi pas ton histoire, parce que moi, si tu me racontes ton histoire, les policiers puis le procureur de la couronne vont me forcer à témoigner. Moi, tu me demandes de quoi, là? Puis souvent, ça prenait un avocat. Alors, j'ai en effet plusieurs, entre autres avec Maître Robert Lahaye, qui est décédé il y a à peu près un an, avec Robert Lahaye, dans les longues prises d'otages qu'on a eues, là. Il y a eu le Saint-Jérôme qui a duré 15 jours. C'était la plus longue prise d'otage dans un centre de détention. Il y en a eu 3 à Archambault. Là, je travaille justement sur le dossier de Léopold Dion. Pour les gens de Québec, vous êtes peut-être trop jeunes, Léopold Dion, des années 63, avait tué des enfants. Alors, Maître Guy Bertrand était un des avocats. Jean Bienvenu, le procureur de la couronne là-dedans. Il a voulu s'en prendre également Jean Bienvenu. Là, justement, j'ai livré mon Normand Champagne qui se faisait appeler Normand Champagne, qui Laurence de l'Arabie à Pinel. J'en ai fait 2 prises d'otage à Pinel. J'en ai fait 3 pénitenciers de Saint-Vincent-de-Paul. J'ai été également impliqué dans l'affaire d'Archambault, la meute d'Archambault. Alors, c'est le même que ça s'est terminé. Puis, avec les années, mon nom, puis moi, je disais, puis les gens me l'ont dit, les employés travaillaient dans les banques, là. Banque de Montréal, la Banque Royale, la Banque d'Épargne, qui à l'époque est devenue Banque Laurentienne. La Caisse populaire, il disait, si vous avez quelque chose, synchronisez. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de réseau continu comme LCN et RDI. Il se passait quoi à Montréal? Le monde, le slogan, CJMS est sur les lieux. Écoutez CJMS. Et c'est de même c'est arrivé que ça a commencé, que moi, j'ai été impliqué dans plusieurs cas d'enlèvement, de prise d'otage. Le plus long enlèvement criminel jamais survenir au Canada, on l'oublie. C'est Charles Marion. Le gérant de la Caisse populaire de Sherbrooke. J'ai connu l'enlèvement de James Richard Cross en octobre 70. Après ça, il y a eu l'enlèvement de Pierre Laporte. Alors, c'est tout ça qui a amené que ça a fait une réputation. Puis compte tenu que ça a amené beaucoup de publicité, ben le milieu... Puis je me rappelle, entre autres, d'une prise d'otage à pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul. Les gars avaient demandé, par l'entremise de Paul Rose, qui était détenu, Pierre Pascoe. Et Pascoe ne voulait pas y aller, puis il me dit, tu connais ça, vas-y. Alors moi, je suis allé dans des cas comme ça parce que il y a eu beaucoup de publicité des retombées et qui a amené des gens à me demander.
Moi, j'ai une question pour vous. Comment on gagne le respect ou la confiance de ces gens-là? Parce qu'on s'entend, là, c'est des criminels, c'est des gens dangereux. Comment avez-vous réussi à gagner la confiance de ces gens-là au fil des années?
On dit souvent que le passé est garant de l'avenir. Moi, quand des gens me demandaient, parce que moi, il faut le dire, là, à part d'une fois ou deux, mon ami Pierre Trudeau, qui était directeur de la police à Saint-Hubert, m'avait fait demander concernant une affaire de situation de prise d'otage. À Laval, c'était la même chose. C'est la police, c'est le bureau des enquêtes criminelles à l'époque, la police de Laval, qui m'ont fait demander. Mais moi, 95%, ça a toujours été les mutins qui m'ont fait demander. Les policiers ne m'ont pas voir encore moins un journaliste dans leur plate-bande. Alors, c'est sûr et certain que moi, c'est jamais le milieu policier. Puis moi, j'ai jamais crié le mot police. Il y a des journalistes qui font leur travail, puis ça, je respecte ça, mais ils mangent dans la main de la police. Moi, j'ai jamais fait ça. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, je prenais 90% que la police me donnait, et j'essayais de trouver un peu plus. Et c'est ça qui m'a amené. Quand j'ai eu les rencontres qui m'ont dit... Poirier, puis moi, j'ai collaboré pendant 30 ans au dimanche matin. J'ai collaboré à l'Opolis pendant une trentaine d'années. Puis, ce qui m'a amené à avoir des contacts avec des gens comme Vito Rizzuto, Vic Catroni, Paolo Violi, Mom Boucher, Jacques Messrine, Richard Blas et compagnie. Les gars me disaient, bon, t'es journaliste, on t'a suivi, on a vu ce que c'était. Moi, je leur disais, vous n'êtes pas d'accord. que ce que Alliopolis a écrit ou les comptes rendus dans le dimanche matin ou dans Alliopolis ou à Montréal matin, ben oui, on a une version. Ben, à l'avenir, tu as nos numéros de téléphone, tu nous appelleras. Puis moi, j'ai, que je peux vous dire, j'ai constaté avec les années, là, ça fait 60 ans, que mes meilleurs secours, souvenez-vous d'un mariage célèbre où M. Jean-Pierre Ferland est allé chanter la chanson « Heureusement qu'on sort », puis Julien Trudeau, moi, c'est quand j'ai eu les vierges avancées qui m'ont dit « C'est épouvantable, je ne serais pas allé là. » Non, ils ont tous demandé des photos, par exemple, au complet. J'ai connu ça, cette période-là. Et je viens à dire ceci, c'est que la plupart des journalistes, quand ils commencent dans le métier, dans la presse écrite, dans la télévision, par radio, ils essayent de ne pas rester trop longtemps parce que ça... D'abord, faire un succès, il faut toujours que tu sois disponible. Faut toujours que, quand quelqu'un t'appelle, puis moi, ben, j'ai déjà eu 3 téléphones cellulaires à ma disposition. J'ai encore un téléavertisseur aujourd'hui. La meilleure communication, c'est encore le téléavertisseur.
Ah oui, encore aujourd'hui?
Ben oui, c'est sûr, quand j'ai entendu, puis il y a eu une enquête sur la question des écoutes électroniques contre les journalistes, moi, j'ai été bandé toute ma vie. Alors, ça me dérange pas, moi. Je suis pas là pour sonner. Moi, si un gars m'appelle, puis il me dit, écoute bien, pour rien. J'ai déposé une bombe à tel endroit. Comme citoyen, c'est mon devoir d'appeler les autorités policières. Mais je me souviens, entre autres, d'un gars, un jour, qui m'avait appelé, puis qui se promenait avec une bombe. Puis malheureusement, la première fois, il s'est rendu parce que j'ai réussi à négocier dans le terrain de stationnement de la Ronde. La deuxième fois, il s'en allait sur le pont Jean-Cartier, il a foncé alors que le monde, le pont était fermé. Puis le monde s'en allait au feu d'artifice. Il y a un policier qui a été sérieusement blessé. Puis lui, il est mort dans cette affaire-là. Alors moi, je le dis, je le répète, quand je vais prononcer des causeries, des fois, en technique policière ou en journaliste, je leur disais toujours, si vous voulez réussir dans ce métier-là, il ne faut pas qu'on vous comptiez les heures, il faut que vous soyez disponible, puis donnez l'heure juste. Moi, je me suis jamais servi des informations que j'ai eues du milieu pour transmettre ça à la police. Puis moi, la police, les fois que j'ai eu des bons contacts avec les policiers, aujourd'hui, ça a tout forgé. On a les relations publiques, puis on voit ce que ça donne. Alors, il faut respecter. Moi, c'est pour ça que j'ai eu 3 livres, otages, sur la corde de raide, et puis 10-4, mais sur la corde de raide, c'est sûr que j'étais toujours sur une corde de raide. Moi, quand je me souviens, entre autres, quand Robert Brown s'est suicidé devant moi, eux autres étaient coincés avec l'enlèvement de la fille d'un gérant d'une caisse populaire à la chute. Puis ce matin-là, quand je suis arrivé, parce que un des gars qui avait été arrêté, Robert Brown, il dit, si vous voulez avoir la fille vivante, faites bien poirier. Alors moi, ils m'ont appelé. Ils étaient tous couchés dans leur voiture, puis ils m'ont regardé de travers. Alors, c'est sûr et certain que quand tu es journaliste, puis tu dois y arriver, puis moi, j'ai eu l'avantage. Maintenant, aujourd'hui, il y a eu des cours qui ont été donnés. Moi, j'en ai fait des cours aussi. À des policiers, puis il y a d'excellents négociateurs aujourd'hui dans la police, que c'est pas juste dans les films là, qu'on voit ça. Il y a des gars qui ont été à des cours, qui ont été au FBI à Quantico qu'en Virginie. Moi, je suis allé également une semaine. Et aujourd'hui, il y a une base. Mais négocier une prise d'otage dans une résidence, négocier une prise d'otage dans une banque, puis négocier une prise d'otage dans un pénitencier ou dans une prison, c'est pas la même chose.
Ben non.
C'est l'enfer.
Puis dites-moi, M. Poirier, est-ce que le contrepartie à tout ça, le prix à payer, c'est le contrat sur votre tête? Parce que, tu sais, vous en avez parlé tantôt, là. Des contrats qui viennent sur votre tête, puis des menaces, puis tout ça, ça fait partie de la game, ça aussi, là.
Ben ouais, moi, je me rappelle que Richard Blas m'en a voulu parce que j'avais dénoncé quelque chose. Il avait tué un petit jeune homme italien dans une ruelle. J'avais expliqué dans le dimanche matin l'histoire, puis il avait pas aimé ça. Alors, un soir, Place, moi, j'allais souvent manger dans un restaurant de Saint-Hubert et Saint-Zotier, puis il était tout là, avec sa gang. Puis là, il m'a dit, on va aller faire un tour. Puis un autre soir, j'arrivais chez nous à Ville d'Anjou. Dans ce temps-là, ça existait, la police de Ville d'Anjou. Et j'arrive chez nous, puis Richard Place avec André Ménard. Puis là, on se met à jaser, puis tout ça. Puis là, il me dit, on va aller faire un tour. Puis quand quelqu'un me dit d'aller faire un tour, là, il t'en va pas ouvrir, puis dimanche soir à 7 heures. La police de la ville d'Anjou arrête, elle me dit « Bonsoir, M. Poirier, c'est pas spécial. » Non, non, j'étais avec des amis, puis moi, ben, depuis 40 ans, je suis un partisan des chandails jaunes et noirs.
Ben oui.
Des Browns de Boston, puis Blast, c'est un partisan des Browns de Boston, puis ils ont pas le hockey, puis du Canadien. Puis c'est là qu'il a dit « Mais t'es pas un crosseur. » J'aurais pu dire aux policiers « Hey, ce gars-là, je vais lui faire un tour de machine. » Puis combien de fois que glace était évadée, puis il appelait à la station du CGMS, puis après ça, ça a été CKVM, puis c'est quoi. Puis j'avais des informations, puis là, le gars des nouvelles disait, hey, je viens d'avoir une information pour toi que l'autre va appeler la police. Je lui dis, bon, jamais faire ça. Pourquoi? Mais voyons, Christophe, tu viens de me mettre la tête sur le bio. Le gars, il fait un test, puis il me l'a dit, glace, à un moment donné. Puis quand il s'est fait tuer dans le chalet à Val-David, il avait écrit une lettre à Frank Chauffé et à moi. J'attends encore la lettre parce que ça a été saisi par la police.
Mais dites-moi, M. Poirier, là, vous nous avez nommé un paquet de criminels que vous avez côtoyés. J'oserais dire le plus dangereux dans cette gang-là, c'était qui?
C'est Blas. Richard, moi, j'ai connu les trois Blas. Mario Blas, lui, il mettait le feu. Mike Blas, lui, était à cause de son frère. Il était un tueur à gage. Il était évadé aussi. Moi, je me rappelle, un matin, dans le journal de Montréal, il y avait un article qui avait été fait en disant « La fille du tueur à gage, Mike Blas, étudie en technique policière. » Alors, ce matin-là, j'étais dans ma voiture, puis le téléphone a sonné, et c'était Mike Blas qui me dit « Claude, je suis au coin de Chabanel et Saint-Laurent d'une boîte téléphonique, puis je m'en vais y colisser deux balles dans la tête à Michel Auger. » Je dis « Pourquoi? Il a-tu vu le journal le matin? » Je dis « Oui, je l'ai vu. » Bouge pas, je descends. Ça y a pris des années, je pense, à Michel, de réaliser jusqu'au jour où j'ai fait un enregistrement avec Mike Blas. Je dis, Mike, quand je t'enregistre, il était détenu dans un pénitencier dans l'Ouest. Peux-tu me rappeler le matin que tu m'as appelé? Puis il était clair, précis. Puis c'est vrai, il s'en allait le passer. Parce qu'il n'avait pas aimé l'article qui avait été fait. Il s'en prenait à sa fille qui était étudiante en technique policière. Okay. C'est vrai, ça fait drôle. C'est une bonne histoire. La fille d'un soir à gage, recherchée par tous les corps policiers, elle va étudier en technique policière. Mesrine, moi j'ai eu affaire avec lui, là, justement, j'ai travaillé sur une série récemment, qui va passer à Hélico, qui s'appelle Braquage de bande. Puis moi j'avais reçu des cassettes de Mesrine, puis Raymond Daou, qui était son avocat, à Photopolis en avait reçu, le Journal de Montréal avait, non, Photopolis en avait reçu, et moi, j'ai eu des un jour, je rentre dans un restaurant qui s'appelait le Sambo, à Richabou. J'arrêtais là, c'était dans l'Est. Et le maître d'hôtel que je connaissais, il me dit, c'est Claude, va pas dans la salle à manger, va-t'en au bar. Je dis, pourquoi? J'irai te le dire tantôt. Alors, il est venu me le dire, puis si j'étais à ta place, je m'en irais dans la salle de toilette. Bon, je suis correct, je vais aller aux toilettes. Et là, s'il me rencontre, tu vas avoir de la visite. Jean-Paul Mercier est arrivé dans les toilettes. Il était déguisé, naturellement. Puis là, il m'a dit, le français va venir te parler. Il était avec Jocelyne Darèche. Puis il y avait une autre fille qui accompagnait Jean-Pierre. Parce que les autres étaient évadés du CDC. Là, j'ai parlé avec... c'est là la première fois, ma première rencontre, c'était quand que Raymond Daou a fait expliquer Jean Schneider, puis Jacques Pesserine, Mme Leboutillier qui avait été tuée en Gaspésie. Alors, moi, je l'avais vu à cette époque-là. Par la suite, ben, il a fait ses allées nues. Puis, à un moment donné, quand il est arrivé l'affaire, là, je me suis rendu au Sambo. Puis là, il m'a dit... Puis quand il est arrivé son affaire, je ne peux pas accepter ça, de tuer deux pauvres et innocentes victimes, les gardes de chasse, à Saint-Louis-de-Bradford. Ben, là, il m'avait dit d'aller dans un motel. J'ai passé une nuit dans un motel. Jocelyne Drain attendait l'appel. À un moment donné, le français a appelé, puis il me dit, je viens d'accorder, d'abord, j'ai tiré un journaliste, un ancien policier qui marchait, puis il l'avait traité de PIM. Alors, il me dit, là, je viens d'accorder une entrevue à Paris Match.
OK.
Si tu viens en France au mois de novembre, quand tu arriveras, tu feras savoir à l'aéroport Charles de Gaulle, je vais t'accorder une entrevue. J'ai pas eu le temps d'en rendre. Ils ont fait son procès à Place de Clignancourt au mois de novembre, il y a 40 ans.
En 79, ça, c'est ça, hein?
C'est ça, il est en 79, je crois.
J'aurais des questions pour encore 2 heures à vous poser, M. Poirier, mais je vais terminer avec celle-là parce que on vous entend encore aujourd'hui. Vous êtes maintenant actif sur votre page Facebook. La boîte vocale, ça n'arrête pas ben ça non plus. Puis il y a à peu près 2 semaines, on vous a parlé pour parler du triste drame du côté de Saint-Apollinaire où vous nous avez raconté les informations que vous avez reçues. On n'arrête jamais vraiment de faire ce métier-là.
Non,
là,
mais c'est sûr, tu sais... Les gens qui ont beaucoup de métiers, Tu sais, regarde là, j'ai travaillé sur la série Braquage de banque. Bon, alors, les journalistes qui ont couvert, moi, je raconte pas des affaires que j'ai lues dans les journaux puis que la police m'a donné. J'ai vu, quand ils ont tué Monica la mitraillette, je le savais la veille. Le lendemain matin, ça devait être sa fête. Bon, quand c'était la même chose, Jean-Paul Mercier, Jean Talon et Pinot. Alors, moi, je raconte pas des choses que j'ai lues ou que la police nous a fourni comme information. J'ai vécu ces expériences-là. J'ai participé à ça.
Oui.
La Marion, c'était la même chose. Cédric en Provencher, moi, j'étais pendant 6 mois avec un téléphone cellulaire qui a 100 000 $ à ma disposition si les informations rentraient pour essayer de trouver... Parce que moi, j'ai dans une affaire d'enlèvement d'un enfant, là, il a pris 48 premières heures, c'est crucial. Oui. Après ça, oubliez ça. Puis les pédophiles, quand ils s'amusent avec des enfants, après ça, ils s'en débarrassent. Alors moi, c'est ça. Aujourd'hui, là, quand il y a des... C'est pourquoi ils m'ont demandé, Attraction m'a demandé, demain, justement, j'enregistre pour l'affaire Léopoldision puis Normand Champagne à Pinel. Moi, j'ai vécu des expériences. Je suis parti avec Normand Champagne, que moi, je connaissais pas, puis qui me raconte comment c'est tué Léopoldision, puis tout ce qu'il a fait avec la cervelle, puis tout ça. Alors, quand eux autres ont des dossiers, parce que ça s'en va chez Canal Investigation, ben c'est beau d'avoir... Là, il va y avoir, dans la série, il va y avoir Guy Bertrand, qui avait été un des avocats dans le dossier.
Ouais.
Jean Bienvenu, puis peut être là, parce que malheureusement, il est décédé. Mais c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, quand le moins romance, c'est des affaires qui datent de 30, 35, 40 ans. Il n'y a pas grand monde qui peut frapper à des portes, puis dire, je vais aller chercher l'histoire. Puis moi, quand ils m'appellent, puis si on me dit, pouvez-vous me raconter ça? Un instant, là, je ne vous raconterai pas ça. Moi, je vais vous raconter ce que j'ai vécu à cette époque-là. C'est facile. Tu vois sur Internet, tu peux lire, puis tu vas voir ci, puis ça. Puis malheureusement, aujourd'hui, bien, des fois, je suis en mesure de parler de choses que j'aurais pas parlé il y a 20, 25, 30 ans, parce que certaines personnes vivaient.
Oui, il y a ça qui vient avec aussi. Hey, M. Poirier, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
Ça m'a fait plaisir. 10-4, bonne fin de journée.
Salut, Claude Merci Poirier. Beaucoup. Ancien, est encore aujourd'hui.
Alors, il est encore actif.
J'allais voir, là, il y avait des dossiers qui montaient à 2018 où il y a un homme qui avait demandé à Claude Poirier d'intervenir avant de se rendre, puis Claude Poirier avait répondu en disant « Oh oui, regarde, là, ce que tu vas faire, tu vas m'écouter, puis là, tu vas leur dire que là, moi, je leur ai dit de 30. » Fait que là, tu vas sortir, tu vas dire « OK, c'est beau, Claude Poirier, là, m'a dit de me rendre. » Fait que là, on va régler ça de même. Il dit « Ouais, mais là, je veux pas être arrêté. » Ben, regarde, il dit « Ils ont un job à faire. Peu importe ce que tu fais, ça va finir de même. » Mais tu sais, c'est incroyable, là, ça date de 2018, là, c'est encore arrivé. Puis on y a parlé, tu te souviens, François, il y a à peu près 2 semaines, ouais. Sur le drame de Saint-Apollinaire. Il était encore actif sur ses réseaux sociaux encore aujourd'hui.
Actif et informé.
Et actif et informé, absolument. Personnage absolument fascinant. À 15h33, on va faire une courte pause au retour. Ah, c'est la réflexion de M. Bui qui vient nous parler des bonnes vieilles histoires de pêche.
Excusez-moi, pour aller au lac Épinette, je passe par où?
Pas compliqué. Tu prends le chemin de la Prudence.
Pour les chutes à l'ours?
Le chemin de la Prudence.
Le chalet Rémy?
Chemin de la Prudence.
Le Belvedere?
Chemin de la Prudence. Chemin de la Prudence.
Coudon, connaissez-vous un autre chemin?
Oui, mais l'autre, te le conseille pas.
En VTT, peu importe votre destination, portez votre casque, ajustez votre vitesse et ne conduisez pas avec les facultés affaiblies. Un message du gouvernement du Québec.
Excusez-moi, Saint-Ambroise, ça se trouve où?
C'est facile, allez tout droit, tournez à gauche, ouais. Et au bout, où il y a les frigos, c'est là que la bière se trouve.
Votre destination estivale pour des produits d'ici, Proxy, un dépanneur d'ici. Cette semaine, la boisson québécoise Gourou est 2 pour $5. Détail en dépanneur.
Excusez-moi, par où je prends l'autoroute?
Facile. Au stop, très important, tu freines de façon fluide et tu tournes à gauche. Tu vas tout droit en respectant les limites de vitesse. Il va y avoir un embranchement. Là, tu fais attention de ne pas toucher à ton téléphone. Si tu gardes ta droite, tu vas tomber sur l'autoroute. Puis si tu gardes des bonnes habitudes de conduite, ben, tu pourrais économiser jusqu'à 25% sur ton assurance auto.
Eh hey, ben merci.
Et si tu veux en savoir plus sur le programme Ma conduite d'Intact Assurance, visite intact.ca ou parle à un courtier.
Certaines conditions et exclusions s'appliquent.
Chez Ashton, tu y vas pour l'incontournable mini ou de gâter avec la régulière. Puis des fois, tu y vas pour le bébé ou pour un bon burger. Ce qui est sûr, c'est que tu y vas parce que c'est fait ici avec ce qu'il y a de plus frais. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai.
C'est la grande liquidation de hockey chez EcoSport. Des rabais de 30 à 70% vous attendent sur tout. CCM, Power, Sherwood, True. Oui, oui, tout est en liquidation de 30 à 70%. Du jamais vu en début de saison. Premier arrivé, premier servi. EcoSport, Québec et Lévis.
Vois-tu le panneau orange qui t'indique la prochaine zone de travaux? Vois-tu la limite de vitesse? Vois-tu les gestes du signaleur routier? Lèves-tu le pied sur l'accélérateur? Mets-tu les freins?
Ah, merci, madame, d'avoir ralenti!
Y a pas de quoi!
Les signaleurs routiers sont là pour nous, pour notre sécurité et pour que les travaux finissent plus vite. Mais eux aussi, ils tiennent à leur sécurité. Faisons attention à eux. Sur les chantiers, on lève le pied. Un message de la section locale 8922 du Syndicat des métallos, le syndicat des signaleurs routiers au Québec.
À la demande générale, on prolonge d'une semaine la grande vente sous la tente chez Céramique L'Entrepôt. Céramique, vinyle clic, pierre murale et bien plus à liquider. Premier arrivé, premier servi. Prolongé jusqu'à dimanche seulement chez Céramique L'Entrepôt, 850 boulevard Pierre-Bertrand.
Bonjour, c'est 1-800-GOT-JUNK.
On fait disparaître la junk.
N'importe où.
N'importe quand.
On adore aller grimper dans votre grenier.
Et aller dans les coins sombres de votre sous-sol.
Pointez le gros divan défraîchi.
Disparu.
Pointez le cabanon tout délabré.
Disparu.
Pointez l'énorme congélateur qui congèle plus.
Disparu.
Pointez le maudit chien fatigant du voisin qui jappe tout le temps.
On va se garder une petite gêne. Il est gentil, le gros chien-chien. Appelez au 1-800-GOT-JUNK.
Ou visitez le 1-800-GOT-JUNK.com.
L'été, pour moi, c'est relax. Mon truc, Normandin. La visite arrive, Normandin. Party piscine, Normandin. La glacière du camping, un barbecue entre amis, un petit creux sur la route. Quoi qu'il arrive, il y a toujours un Normandin pas loin, prêt à vous accueillir ou à vous livrer. Avec ses repas prêts à emporter et ses produits barbecue, ses déjeuners servis toute la journée, son menu familial, sa légendaire pizza, dont la pizza homard, laissez Normandin faire partie de vos souvenirs gourmands de l'été.
Chez Raymond Chabot, on sait que la santé, ça inclut aussi vos finances. Si votre situation est fragile, faites votre bilan de santé financière au RaymondChabot.com ou parlez gratuitement à un conseiller syndic autorisé en insolvabilité. 1-855-R-CHABOT.
Le Québec, c'est plus de 3 millions de plans d'eau. Partez à leur découverte à bord de la Outback 2020, meilleur utilitaire intermédiaire au Canada selon l'AJAC et lauréate d'un prix IHS Meilleur Choix Sécurité Plus 2020. Subaru. Confiance et évolution.
FM 93. Le 93 pourrait faire de vous un gagnant.
Cet été, votre vague de soutien envers nos entreprises québécoises va se transformer en vague de prix pour vous. Plus de 10 000 $ en cartes cadeaux à gagner, dont une session de magasinage de 5 000 $ offerte par Chlorophylle. Pour gagner, textez local au 25226 et magasinez chez les marchands participants. Pas de chance.
Restez branchés au FM 93 pour votre chance de gagner. Bouchard en parle avec Alexis Sanson. Voici maintenant la chronique philosophico-socio-écono-politico de Jean-Simon Buis. Sa réflexion, sa vision des choses, son grain de sel. Voici un grand moment de radio.
Mon absence de culture musicale m'intrigue un peu parce que c'est pas tout à fait sur ce genre de chanson que je pensais que t'allais me raconter des histoires de pêche. Je vais t'avouer que j'ai jamais entendu ça de ma vie.
Non?
Absolument
sans,
jamais.
L'histoire sans fin, tu sais pas du tout c'est quoi?
Aucune idée de quoi tu me parles.
Never Ending Story, l'histoire sans fin,
et
c'est...
Ça me dit rien.
Ça me surprend.
Je suis inculte. Non, pas savoir ça.
Non, mais ça se peut, là. Il y a bien des affaires dans le monde de la musique et du cinéma, là. Moi, je suis pas un grand génie. Là. En fait, je te dirais que c'est un petit peu normal parce que c'est très, très, très générationnel, l'histoire sans fin. 25226, si ça vous parle, l'histoire sans fin. C'est un film qui est sorti à la toute fin des années 1980, 89, si je ne m'abuse. Alors, j'avais un an. Tu comprends, je ne l'ai pas vu à cet âge-là. Mais c'est peut-être le film, si j'avais un film à nommer qui a bâti qui je suis aujourd'hui. En termes d'imagination, c'est l'histoire sans fin.
À ce point-là?
À ce point-là, clairement.
Ça a l'air bizarre, il y a des drôles de bonhommes, là.
Ah oui, c'est plein de bonhommes, c'est hyper fantastique, c'est zéro terre-à-terre. Écoute, c'est l'histoire d'un petit gars qui s'appelle Bastien, qui trouve un livre dans un grenier à l'école, un énorme livre, qui commence à lire, puis finalement, il est aspiré dans le monde du livre, où est-ce qu'il y a un dragon qui s'appelle Falcor, des créatures, puis le chien blanc volant au 25226, c'est Falcor, effectivement. Okay. C'est Falcor. Atreyu, avec qui je m'identifiais beaucoup, là, qui était une espèce de cavalier avec le teint basané, donc tu comprends pourquoi je m'identifiais à lui.
Oui, c'est lui.
Il y avait un gros loup méchant à la fin, mais quel... En tout cas, c'était un film là, qui m'a fait capoter, parce que c'est tellement imaginatif. 1984, merci Vincent.
Bastien, c'est qui, lui?
Bastien, c'est lui qui trouve le gros livre.
C'est lui qui...
C'est le champion, ça.
Ouais, c'est un peu comme le héros, tout ça, puis la vieille tortue. Bref, on a plein de gens qui l'ont vu.
Ah ouais, c'est extraordinaire.
Quand j'avais 5-6 ans, Alexis, l'histoire sans fin, je l'ai écouté des centaines de fois, honnêtement. J'ai tellement aimé. En fait, c'était vraiment une histoire sans fin.
OK.
J'arrêtais pas de l'écouter, l'histoire sans fin. La chanson en tant que telle, ben, c'est un verre d'oreille, puis elle a été reprise récemment dans la dernière saison de Stranger Things, la série sur Netflix. Quand Dustin la chante avec sa petite copine à distance, à travers l'intercom, puis c'est sur une scène importante, je vous divulgacherai pas quoi que ce soit. Tout ça pour dire que je veux te parler un peu du pouvoir de l'imagination. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que j'allais parler d'histoire de pêche un petit peu. Puis je veux qu'on ait une réflexion ensemble sur l'importance de se transporter dans des univers imaginaires un petit peu. Mm-hmm. Tu sais, t'es un pêcheur un peu. J'ai vu passer de quoi sur Instagram dans une chaloupe. Là,
oui, oui, ben moi j'aime ça. Là, pêcheur de temps en temps. Je suis pas un grand expert, là, mais j'aime bien ça. Là. Dans la chaloupe, là, quand tu peux pêcher puis jaser, là, c'est le fun.
Puis quand tu pêches un poisson, quand tu racontes la pêche, est-ce que tu as tendance à exagérer un petit peu la taille du poisson?
Ben, il est souvent, mettons, 2 ou 3 fois. Plus gros que la réalité.
C'est ça, tout le temps. Puis c'est comme ça, tu sais, on est de même. Puis le poisson se battait, puis je taponnais après, puis là, je tirais avec la canne, puis là, hop, là, il revenait, puis nanana.
Ça, c'est la première fois, parce que la 10e fois que tu l'as raconté, là, l'histoire est encore plus incroyable que la première fois, là.
Elle est hallucinante, là. Fait que Marcel qui a pêché sa petite truite, là, s'est rendu quasiment un brochet de je sais pas combien de pieds de long qui était légendaire dans le lac où est-ce qu'il a pêché, puis rendu, racontait à son petit-fils, l'histoire est passée littéralement à la légende. Parce que c'est plus grand que l'événement en tant que tel, c'est plus grand que l'homme qui l'a raconté la première fois.
Moi, tu sais que je suis un grand fan de Brian Perrault. J'ai lu tous les Amos d'Aragon. Okay. Ça, c'est, tu sais, pour quelqu'un de terre à terre, moi, j'ai adoré les Amos d'Aragon.
Ah, tu me surprends.
C'est un univers plus fantastique. Oui. Mais Brian Perrault est un écrivain que j'adore. Puis lui, il a écrit les Contes et légendes du Québec. Puis lire ça, ça fait aucun sens, OK, ces affaires-là. Mais moi, je trouve ça intéressant parce que ça part de quelque part.
Tout le temps.
Tu sais, il y a tout le temps un point de départ. Puis là, des fois, je me dis, oh shit, OK, c'est comment ça a décollé cette affaire-là? Mais c'est pas grave parce que ça fascine notre univers québécois. Puis tout le monde a une histoire, là.
Ouais, ouais,
tu sais, celle qui fait du pouce là, dans le parc des Laurentides, là, mais elle a son histoire, elle aussi, là, quand tu passes dans le parc, là, mais il y a l'histoire de ça. Il y a une histoire d'un personnage de partout au Québec.
Ouais, prends la Corriveau, prends la Chasse-Galée.
Exact.
C'est tout basé sur nos réalités, puis ça devient une partie de notre imaginaire collectif. Et ça, c'est important, l'imaginaire collectif, parce que ça fonde une société, tu sais. Mm. Au fond, là, nos normes sociales, puis la façon comment qu'on fonctionne dans la vie en général, puis nos référents culturels, tout ça est basé sur du vent total. Je veux dire, il n'y a pas de loi physique derrière ça, tu sais. Il n'y a rien qui sous-tend la culture québécoise. La culture québécoise, c'est pas figé dans le roc. Je veux dire, il n'y a personne... Dieu n'est pas arrivé, en fait, vous serez des Québécois, tu sais, puis vous serez des Allemands, puis vous serez des... Non, non, ça s'est formé au fil du temps. À travers quoi? À travers un imaginaire collectif, puis à travers, justement, cette espèce de ces espèces d'histoires et de légendes qui, de siècle en siècle, ont changé de forme pour devenir des mythes fondateurs à quelque part.
Ben oui.
La mythologie, pour moi, c'est probablement une de mes plus grandes passions, les mythologies, en fait, parce qu'il y en a plusieurs, justement parce qu'on comprend l'être humain puis on comprend son histoire lorsqu'on consulte les mythes d'autrefois. T'sais, quand Homer écrit, puis Homer, c'est un grand mot, là, quand on dit Homer, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée... En fait,
pas Homer Simpson, ça.
Non, lui, c'était plus qu'Homer, l'auteur de l'Iliade et de l'Odyssée.
C'est moins philosophique un peu, son affaire.
Un petit peu. Quoique, sur les eBay, des fois, ça peut être un peu philosophique.
Oui.
Mais Homer, en tant que tel, qui est un auteur légendaire, c'est le cas de le dire, parce qu'on ne sait même pas s'il a réellement existé. C'est des recueils qui ont probablement pas été écrits par les mêmes personnes à partir d'histoires qui ont été racontées autour du feu pendant des siècles et des siècles.
C'est pas grave, ça.
Non, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, ça démontre qu'il n'y a rien de figé dans le temps, puis il n'y a rien de réellement vrai. Tu vois ce que je veux dire?
Ben, absolument. Puis, tu sais, ces histoires-là, ça fait partie de quelque chose qui est intangible. Ça fait partie de juste de raconter, puis de raconter, puis de raconter. Puis à quelque part, on les a tous racontés, nos histoires-là. T'sais, tout le monde a raconté une histoire à quelqu'un puis à quelqu'un d'autre. Puis il y a bien des affaires que moi je pourrais te dire que je sais pas d'où ça vient pantoute. Tu sais, je comptais là, un peu plus tôt dans l'émission que j'étais allé au chalet qu'on avait quand on était plus jeune.
Ouais.
Ben, il y a bien des affaires au chalet que je me suis fait raconter par un puis l'autre, puis finalement, je l'ai jamais vu d'où ça venait cette histoire-là. Mais du coup, ça m'intéresse pas. J'aime bien mieux croire à l'histoire, moi.
Exact. Puis même sur nos souvenirs, tu sais que la mémoire est faillible. C'est démontré que, tu sais, dans le fond, nos souvenirs, c'est un ramassis d'impressions, de couleurs, de sons qu'on rassemble ensemble, mais qui finalement n'est pas le reflet de la réalité parce qu'on n'a pas un film. Remarque que dans un épisode de Black Mirror, je sais pas si tu connais la série de science-fiction.
Mais oui, c'est excellent.
The Entire History of You, qui est un des meilleurs épisodes dans lequel les gens ont un mécanisme à l'intérieur de leur cerveau qui enregistre comme eux une webcam.
Oui.
Tout ce qui se passe autour d'eux. Donc, ils peuvent avoir une entrevue au travail ou une chicane de couple, puis revenir en arrière, puis tout voir. Pas sûr, ce serait une bonne idée qu'on ait une mémoire à ce point incroyable. Je pense que c'est bon que notre mémoire soit faillible, puis qu'on change les trous. Mais bon, ça, c'est une autre question. Tout ça pour dire que les contes de fées, les mythes sont importants, et je trouve qu'on le perd un petit peu dans notre société. Il y a un livre qui a été écrit par un BDiste qui s'appelle L'imaginaire en déroute. Le BDiste fait depuis des dizaines d'années des ateliers dans les écoles primaires avec les enfants.
Ouais.
Puis à la base, son atelier, c'est très simple. Il donne une feuille de papier à un enfant puis il dit « Dessine-moi ce que tu veux. »
OK.
Avant, il dit, les enfants y arrivaient, puis ils me dessinaient un dragon qui crachait du feu, puis un chevalier, puis plein de choses. Puis là, le gars, il dit...
Bonhomme allumette.
Depuis 10 ans... Non, mais pire que ça.
Pire que ça.
L'enfant regarde sa page, puis...
Il dit, qu'est-ce que je dois écrire?
Il y a rien. Il sait pas quoi dessiner, parce qu'on lui a pas dit, dessine un bonhomme, dessine le soleil, puis il pleure. Souvent. Fait que lui, il s'est dit, garde, je vais écrire un livre, L'imaginaire en déroute, parce que c'est problématique. Pourquoi l'imaginaire est en déroute? Peut-être parce que on raconte moins les fameux contes de fées. Les contes de fées standards de Charles Perrault ou encore les contes de Grimm ou tout ça, qui sont en passant souvent un peu violents. Là. Tu sais que dans Cendrillon, le Cendrillon original, les belles-sœurs finissent pas juste abandonnées par le prince charmant. Ils se font arracher les yeux par des corneilles.
C'est moins le fun, ça.
Non, c'est jamais ben cute. Tu sais, dans Hansel et Gretel, les détails sont assez importants sur la manière dont la sorcière mangeait des enfants. Il y a des contes absolument abominables, OK? Et pourtant, les contes sont importants pour les enfants parce que en plus de former leur imagination, ils permettent de comprendre un peu, comment dire, les rôles sociaux. Qu'est-ce que c'est que le bien? Qu'est-ce que c'est que le mal?
Ben oui.
Parce que quand tu arrives au monde, quand tu es au monde, quand tu viens au monde, là, tu ne sais pas c'est quoi le bien, tu ne sais pas c'est quoi le mal, tu n'as aucune idée comment distinguer un peu la morale qui est, encore une fois, une construction des gens un peu. Là. Fait que les contes de fées t'aident là-dedans. Fait qu'avoir un rôle clair, mettons, dans Hansel et Gretel, c'est la sorcière cannibale qui est méchante, ça aide les enfants à progresser. Puis il y a un auteur qui s'appelle Bruno Bettelheim, qui est un psychanalyste, qui a écrit un livre qui s'appelle Psychanalyse des contes de fées, qui déjà, dans les années 70, en 1976, disait « Attention, le 21e siècle, un des défis pour nos enfants, ça va être leur imagination. On est en train de les perdre parce qu'on compte moins de contes de fées puis on raconte plus d'histoires qui sont ancrées dans la réalité. »
Et il y a ça, puis tu sais, regarde en arrière de toi, là, on est à Télé-Québec, là, ouais. Là, les enfants sont revenus de l'école. C'est des bonhommes. Et les bonhommes, là, c'est le fun à écouter. C'est intéressant, les bonhommes. Mais t'es vois, les bonhommes. Il n'y a pas besoin d'imagination pour voir les bonhommes.
T'as raison.
On lit plus. Puis d'abord, nous, on lit plus. Puis j'oserais dire que lire des histoires à nos enfants avant d'aller se coucher, là, ça a un peu plus perdu la cote.
On le fait-tu encore? Ouais, c'est ça. C'est une bonne question. 25-226, prenez-vous le temps. C'est vrai qu'on est pressé à mort puis tout ça. Est-ce que vous prenez encore le temps? Est-ce que vos enfants vous le demandent encore de vous raconter des contes? Mais pas n'importe lesquels. Bruno Bettelheim dit qu'on devrait raconter les contes de fées, les contes des mille et une nuits, les contes de Charles Perrault. Il dit qu'il y a une raison pourquoi ces légendes-là, ces contes de fées-là, se sont transmis au fil des siècles et des générations. C'est parce que ça parle à notre imaginaire. Ça parle à qui on est comme être humain.
Puis juste de raconter puis d'imaginer quelque chose. Hey, s'il y a bien quelque chose, là, bon, j'ai quand même une certaine imagination, là, mais je pense que je suis assez pragmatique dans la vie. Mais jeune, là, j'ai aimé ça, moi, les lire, tous mes Amos d'Aragon, je les ai lus au complet, puis je te dévorais ça. Mais aujourd'hui, là, écoutez Stranger Things, ça m'intéresse pas. C'est pas pareil de le lire que de le voir. Tu sais, c'est pas, pour moi, c'est pas la même affaire. Tu sais, si tu lis, si tu te l'imagines, si t'as juste quelqu'un qui te raconte, d'abord, moi, entendre quelqu'un me raconter quelque chose, je trouve ça passionnant, mais avoir cette faculté-là, puis après ça, ton cerveau, il fait le reste de l'histoire dans sa tête, puis tu te l'imagines. C'est pas pareil comme de le voir, parce que clairement, quand tu le vois, il n'y a plus vraiment place à ton imagination. Là. Ton imagination, il ne crée plus grand-chose.
Exact. Au 25-226, tu vois, il y a des gens qui nous disent tous les soirs une à deux histoires pour leur enfant. Quelqu'un d'autre dit une histoire tous les soirs à ma petite fille de 6 ans qui a une imagination débordante. Et Martin dit les enfants sont de plus en plus parqués devant un écran, devant une télévision, de plus en plus abrutissant. Et c'est pas faux, puis je veux pas lancer la pierre à la télévision en tant que telle, mais je pense pas que pour l'imagination, Caillou et ses successeurs ou la Pat Patrouille...
Ouais, la Pat Patrouille, non?
Non, ait autant d'effet que de se faire raconter un conte de fées ou un mythe ou une légende. Je pense que ça, c'est plus important. Il y a un film qui m'a beaucoup marqué aussi. Je t'ai parlé de l'histoire sans fin. Ça, c'est celui qui c'est le film qui a bâti mon imagination. L'autre film qui a bâti qui je suis comme personne aujourd'hui, honnêtement, là. Puis je me souviens d'une phrase dans ce film-là, je vais te la lire, OK? J'étais à peu près à l'adolescence, j'ai 15 ou 16 ans à peu près. Faudrait que je retrouve la date exactement, mais on est autour de 2005-2006. C'est un film de Tim Burton qui est pas son plus connu de la gang, OK? Il s'appelle Big Fish, la légende du gros poisson. Ça te dit quelque chose?
Non, rien.
C'est l'histoire d'un d'un monsieur qui est sur le bord de mourir d'une maladie chronique. Et puis, son fils, toute sa vie, s'est fait raconter les exploits de sa vie. Puis lui, là, il avait vécu une vie plus grande que nature. D'après ce qu'il a raconté, il a été à la tête d'un cirque avec des gens, des phénomènes de foire. Je pense que d'ailleurs, André the Giant jouait dans ce film-là.
Okay.
T'avais, écoute, des histoires rocambolesques, dont une des histoires qui était l'histoire d'un énorme poisson contre lequel il se serait battu dans une pêche héroïque. Et ce film-là, dans le fond, c'est le petit gars qui découvre peu à peu, en fait, il est rendu à l'âge adulte, que son père lui a menti.
C'était pas finalement
c'était pas exactement des... ça. En fait, tout était basé, il y avait un grain de vérité dans chacune des histoires, comme tu l'as dit. Dans chaque histoire qu'il racontait, il y avait quelque chose de vrai. Sauf que ça avait été enjolivé, c'était devenu plus grand que nature et tout ça. Puis pendant un bout du film, le gars, il s'en veut. Il dit à son père, je t'en veux, tu m'as menti, tout ça. Puis il en veut vraiment à son père. Mais à la fin du film, il réalise à quel point ces histoires-là étaient devenues importantes pour l'homme. Et la phrase qui m'a marqué, puis je te jure, ça me marque encore aujourd'hui, puis dans le métier que je fais, c'est la phrase qui m'a plus marqué au cinéma, puis c'est « Un homme raconte ses histoires tellement de fois qu'il devient ses histoires. Elles vivent après lui, et de cette manière, il devient immortel. » Et ça, je pense que c'est criant de vérité. Il faut raconter nos histoires.
Oui.
Quand je parle de nos histoires, je parle de notre histoire comme l'histoire du Québec, l'histoire du monde. Je parle de nos histoires comme les contes, comme les légendes, comme les mythes, sous peine de perdre de la magie. Et ça, de la magie, malheureusement, on en a bien besoin dans notre monde. Mmh. Et je vais finir en citant peut-être Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.
Ah, pas de Saint-Augustin, quasiment. On s'en
rapproche. Non, c'est Antoine de Saint-Exupéry.
Okay,
mais c'est quand même très, très bon.
Oui.
Tous les adultes ont déjà été des enfants, mais la plupart ne s'en rappellent pas.
C'est très bon.
C'est très bon. Puis j'ai une autre question.
Vas-y.
Bonus, puis tu vas la trouver bizarre, là. Mais les trois carrés là, qu'il y a sur ta feuille, là, tu fais tout le temps plein de carrés quand tu dessines.
Non, mais je suis convaincu qu'il y a un lien. Pourquoi ces trois carrés-là?
Je sais pas. Je n'ai aucune espèce d'idée, mais je griffonne beaucoup sur mes... je pense que c'est CQFD, ce qu'il fallait démontrer, je pense.
Okay.
Mais je le sais pas vraiment.
C'est un bon dialecte intéressant. Ouais. Mais pour bonifier aussi cette affaire-là, ouais. Jean-Simon... Tu sais, les réseaux sociaux où on se raconte des histoires puis on aime mieux croire ce qu'il y a sur les réseaux sociaux que ce qu'on entend dans les médias.
Je voulais pas aller là, mais puisque tu m'y
as... Mais ça vient de là, pareil.
Ben oui.
Parce que c'est quelqu'un qui t'a raconté ça. T'aimes bien mieux croire quelqu'un que tu connais qui t'a raconté ça que de croire quelque chose que... Ah ouais, j'ai lu ça dans le journal, OK? Ouais, mais mon chum Guy m'a dit l'inverse, lui. Qu'est-ce que tu vas croire? Malheureusement, on va te croire le chum Guy, là.
Et le problème, c'est que contrairement où les contes de fées te permettent de savoir qui est le vilain, qui est le gentil dans l'histoire, aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, les rôles sont souvent inversés.
Ben oui. Ah, t'as bien raison. Merci, Jean-Simon, pour
plaisir,
cette réflexion
Alexis.
Fort intéressante. On se recroise demain midi.
Oui.
Et on se recroise aussi à la fin de la semaine.
Oui.
Pour cette fois-ci, une question encore plus importante
que
celle-ci.
Oui, des grandes questions qui changent le destin de l'humanité.
Absolument. On aura l'opportunité de régler tout ça vendredi. Merci,
Salut.
Jean-Simon.
Au 93, dès le 10 août, Trudeau, Landry, Jérôme Landry, Jonathan Trudeau.
Salut tout le monde, ici Jérôme Landry.
Et Jonathan Trudeau. On est bien, bien heureux de se joindre à l'équipe du 93.
L'émission va s'appeler Trudeau-Landry et on va être là à compter 10h du lundi au vendredi. On va jaser d'actualité, on va jaser avec vous et on est capable d'être sérieux quand c'est le temps, mais on va s'amuser aussi.
On a vraiment très, très hâte de vous parler. Ça commence le 10 août prochain, soyez-y.
Trudeau, Landry, t'es pas prêt.
Ouais, nous autres non plus, là. Mais ça s'en vient.
Je dois vous dire que je suis bien content de me retrouver, enfin, dans une vraie radio parlée.
93.
Mon camion, c'est mon outil de travail. Il est vraiment pratique. Je l'utilise tout le temps. C'est pour ça que je l'entretiens bien. Je fais tout moi-même. Tout, sauf l'antirouille. Ça, je laisse ça à des experts. Antirouille Métropolitain. Leur service est excellent, leur produit est efficace. Puis leur garantie me permet d'avoir l'esprit tranquille. C'est pour ça que je leur fais confiance année après année. Antirouille Métropolitain, un investissement intelligent et payant.
Cette semaine, on profite de la circulaire Super C. Et qu'est-ce qu'on fait avec? 36 canettes de Heineken à 45,99 puis 48 canettes de Coors Light à 53$. Ben, on se la coule douce. Parce que c'est l'été, parce que c'est congé, parce que c'est l'été, parce que c'est mérité, parce que c'est l'été, parce que... Je l'ai dit l'été, hein, parce que ça fait une couple de fois que je... Hey, c'est super, Super C. Valide jusqu'au 5 août. Détail dans la circulaire Super C.
L'Aquarium du Québec vous invite à entendre l'appel du monde marin et à découvrir le morse. Ben non, pas ce morse-là, celui-là. Visitez CEPAC.com et achetez vos billets en ligne pour l'Aquarium du Québec.
Étoile 93.3.
pour signaler un problème sur la route. Pour intervenir en onde. Pour réagir. Composez étoile 93.3. 93.3.
Le Canada a l'un des taux les plus élevés au monde de la maladie de Crohn et de la colite ulcéreuse. Aidez-nous à faire connaître à un plus vaste public ces maladies chroniques et faites savoir aux personnes qui en souffrent qu'elles ne sont pas seules. Le dimanche 23 août, participez à la levée de fonds de la marche GOTY de Crohn et Colite Canada. Rejoignez-nous virtuellement de n'importe où et de n'importe quelle façon. Ça prend du cran pour trouver un remède. Inscrivez-vous, donnez ou soyez bénévole à gotyenmarche.ca.
Présentement, c'est Bouchard en parle.
Bouchard en parle.
Voici Alexis Sanson.
Bon, après les grandes questions de Jean-Simon sur la philosophie de l'imaginaire...
Les petites questions d'Alexis.
Exactement. Sur les grenouilles. Les garnouilles. T'écoutes ça, là, François, là. Moi, je retiens tout le temps plein d'affaires quand je me revois au chalet. Ce que j'ai découvert, d'abord, c'est qu'il y avait beaucoup plus de wawarons fut un temps dans le lac Brochet où je suis allé.
OK, les wawarons sont en moins grand nombre.
Ouais, à cause d'un déversement qu'il y a eu à un moment donné dans le lac. Puis à un moment donné, les guernouilles sont partis, mais ils sont revenus. Puis la tante de mon père, là, je peux dire, comment je peux appeler ça? La tante de mon père.
Une parenté éloignée.
OK, parfait. Je vais l'appeler Jeannine à ce moment-là, ça va être plus simple. Elle me racontait que quand ils étaient jeunes, eux autres, ils allaient à la pêche au wawaron dans le lac.
La pêche au wawaron?
Oui, ils pêchaient des wawarons. Puis là, ils ramenaient ça.
T'attrapes ça comment, des wawarons?
Honnêtement, tu pêches ça pareil comme un poisson. Oui. J'ai déjà pogné un wawaron, mais une bonne grenouille en arrière de chez nous, de manière absolument involontaire. J'étais à la pêche au poisson, puis j'ai pogné une grenouille à un moment donné. Hey, c'est dégueulasse, je savais plus quoi faire avec ça.
J'en ai une dans ma piscine.
Une grenouille?
Ouais.
Tu pourras la pêcher. Es-tu grosse?
Non, elle est petite.
Ça, c'est un peu plus plate, parce que ce qui nous intéresse, c'est les grosses grenouilles.
C'est ça, il n'y a pas de viande là-dedans.
Ouais, parce que là, elle disait qu'eux autres, ils allaient à la pêche au wawaron. Et puis là, ils ramenaient ça. Puis leur père découpait la grenouille. Puis là, ils ramassaient les cuisses de grenouille. Puis ils faisaient cuire les cuisses de grenouille. Puis ce midi-là, c'était midi cuisse de grenouille.
Mais ça prend pas mal de wawaron pour faire un repas complet de...
Ben, une fois qu'il en avait pêché une vingtaine, il disait qu'il était correct.
C'est correct, oui.
Okay. Une vingtaine de cuisses, il mangeait ça. Et puis là, on est arrivé sur le sujet que mon grand-oncle, parce que ça a l'air qu'il faudrait appeler ça une grande-tante puis un grand-oncle. Fait que là, il me contait que mon grand-oncle, ben oui, dis-moi, je mange ça, les cuisses de grenouille, on achète ça chez IGA, puis on fait cuire ça. Ça se vend chez IGA, en paquet, des grosses... T'as des grosses ou des petites cuisses de grenouille? C'est comme tu veux. Moi, j'ai l'impression que la petite cuisse de grenouille, tu mets tellement d'efforts là-dessus pour essayer de la manger que finalement, il reste plus grand-chose. T'as dépensé plus d'énergie à la manger que...
Mais grosse, ça ressemble à quoi, mettons?
Ça ressemble à un gros pouce. C'est des ailes de poulet. Tu sais, c'est des ailes de poulet, mais en cuisse de grenouille, dans le fond. Faut que tu vois ça de même. Puis là, elle me disait qu'elle faisait cuire ça, ils achetaient ça, ils font dégeler ça, tu laisses baigner ça dans le lait puis de l'eau. Après ça, tu mets ça dans la farine, dans la poêle, tu mets du beurre, puis tu rajoutes de l'huile. Parce que sinon, si tu rajoutes pas d'huile, le beurre peut devenir noir, mais quand tu rajoutes de l'huile, le beurre devient pas noir. Moi, j'ai appris ça, bon. Je savais pas ça. Puis là, tu mets les cuisses de grenouille, tu fais chauffer ça là-dedans. Et donc, arrive ma question ici. Mangeriez-vous ça, vous autres, des cuisses de grenouille?
J'en ai déjà mangé.
T'as déjà mangé ça?
J'ai pas apprécié vraiment.
OK. Bon, comme t'en as déjà mangé, toi, Alex, qui est un grand mangeur, là...
Ça m'intéresse pas.
Ça t'intéresse pas, toi, les cuisses de grenouille?
Vraiment
pas.
Mais
ils sont comme panées, en plus, celles-là.
En panées, peut-être.
Parce que, tu sais, si...
Non, mais pour vrai, non, je pense pas.
Non?
Non.
OK. Ça coûte quoi, François, des cuisses de grenouille?
Ben, pas grand-chose. Moi, c'est ça. J'étais très, très sceptique. Moi, ma fille adore ça.
Ouais.
Mais j'étais très sceptique. C'était dans un buffet chinois, probablement, que j'ai mangé ça. Je me souviens pas. Puis, là, je vais goûter. J'étais pas mal... j'avais des appréhensions. Puis, finalement, je me suis dit, c'est... Non. Si on m'avait pas dit que c'était pas une cuisse de grenouille, j'aurais pas deviné.
Ah non? Mais... Ça paraît pas?
Non, mais je veux dire au goût, là.
OK.
Je pense que j'ai vu ça, là, moi aussi, un buffet chinois.
Oui.
Il y en a. Dans les buffets chinois, c'est quelque chose qui est assez
populaire. Le défunt buffet chinois de grand-mère offrait des cuisses de grenouille bien jeunes quand on allait là, avant qu'il décède, malheureusement.
Mais honnêtement, non, le goût, c'est pas un goût qui m'a rebuté, puis c'est pas un goût, je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. Non, c'est...
Comme tout ce qu'il y a dans le buffet chinois.
C'était fade un peu. Moi, j'ai trouvé ça comme ça.
Il semblerait que les cuisses de grenouilles font partie de la gastronomie française. Bon, sachons-le. Puis ça a l'air, ça goûte comme le poulet.
J'aurais comme des doutes, moi, que ça goûte comme le poulet, mais ça a l'air que ça goûte ça.
Ben, j'essaie de me souvenir de la texture. Ben, ça m'a pas frappé.
C'est
là.
Pas gluant?
Non.
Non, mais je sais pas.
Ben, il était frit, là, me semble, si je me souviens bien. Non, il n'y avait rien de gluant là-dedans. Au niveau de la texture, ça ressemblait à... Peut-être que ça, oui, ça ressemblait à des ailes de poulet, peut-être un peu. Mm. Mais au niveau du goût, là, moi, ça m'a pas rebuté, puis ça m'a pas... Je suis pas tombé en bas de ma chaise.
Pourquoi tu les essayes pas, Alex? Moi, je veux que tu l'essayes, parce que c'est toi mon baromètre en termes de bouffe.
Je suis pas game de l'essayer.